Ulla von Brandenburg, Theodora Domenech, entretien réalisé pour Rosascape le 15 janvier 2012. Donc nous nous rencontrons aujourd'hui à l'occasion de ce double projet, qui est le projet d'édition qui s'appelle Libelle et d'exposition qui aura lieu dans presque un mois, presque exactement un mois. Et on est donc maintenant dans la phase un peu entre deux de préparation de l'exposition avec ce premier édition qui a donc déjà été rendue publique. Et je voulais simplement t'entendre sur la manière dont tu comptes occuper cet espace qui a cette particularité d'être déjà double parce qu'il est donc public et privé et que c'est un dédoublement qui fait écho à de nombreux dédoublements conceptuels ou formels qu'on peut retrouver dans ton travail, notamment la dimension du rêve ou de la réalité, ou avec le titre de l'exposition qui, je pense, sera cette fois définitif, mais donc sur cette notion de cavalier inexistant, donc ce que c'est que l'être et le non-être, ce qui existe ou pas. Qu'est-ce que c'est qu'une chose qui serait inexistante? Est-ce que ça existe précisément? Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Voilà, si tu pouvais nous présenter.
L'espace va être occupé principalement avec un film et un rideau, mais cet film et cet rideau, il va exister double. En fait, j'ai un rideau avec des losanges, lequel j'ai fait pour une autre occasion déjà. C'est un rideau, un patchwork fait avec tous les tissus que je collectionne depuis longtemps sur les marchés aux puces, etc. Et j'ai fait un ordre de couleurs avec ces couleurs, avec ces tissus. Et avec un patchwork, c'est très... comment dire... Je veux dire, patchwork, ça se fait avec des vieux tissus qui sont déjà utilisés. C'est aussi ce truc, en fait, le principe de collage et de décontextualiser des vêtements et de leur donner un nouveau sens. Et ça veut dire cet rideau. Et cet rideau, je le fais deux fois, mais en miroir. Ça veut dire que s'ils sont vis-à-vis, c'est comme ils se miroirent. Et mon but est que, parce qu'ici à Rosascape, il y a trois espaces de l'expo. Il y a l'entrée qui est assez petit où je vais montrer des dessins, mais les deux espaces principaux, ça va être la même situation mais miroirée. Ça veut dire on rentre dans l'espace, on voit un grand rideau et derrière on voit une projection d'un film. Et cette film va être aussi filmé deux fois. Ça veut dire ça va être filmé une fois avec je veux dire tout ce qui va être sur la gauche va être dans le deuxième film sur la droite, parce que je voulais pas seulement simplement comment dire flipper c'est le mot en Photoshop ou Final Cut l'image. Je voulais vraiment que aussi les acteurs font le travail de penser c'est quoi mon mouvement en miroir. Alors comment j'ai bougé ma main dans le premier film avec la carte et comment je dois la bouger maintenant dans le deuxième, que c'est un acte conscient, cet être miroiré. Et en plus, le film, ou les deux films vont être filmés dans cet miroir qui est très marquant, je trouve, dans l'un des plus grands espaces, que la caméra va pas être visible, mais la caméra va filmer dans le miroir et on va voir le miroir et le miroir va devenir comme un cadre ou même une scène où on voit cette petite scène. Ça c'est le comment dire la construction principale et le but évidemment c'est d'avoir un déjà vu ou même tu l'as déjà dit. On rentre dans un premier espace et dans le deuxième, on a un déjà vu, on pense est-ce que c'est rêvé ou pas. Et aussi pour cette édition de Libelle, j'ai travaillé sur le, sur le terme de la mise en abîme. Et c'est aussi évidemment la mise en abîme, mais si on met un miroir devant un miroir, et on voit un miroir, etc. Et je voulais, sur cette affiche, c'est une sorte, aussi une collage, évidemment, et une collection des images autour de la mise en abîme. Pas tout, j'ai d'ailleurs aussi beaucoup des images qui me concernent en ce moment dans mon travail ou qui sont des sources d'inspiration, même peut-être depuis longtemps. J'ai aussi mélangé des vieux travaux, mais il y a aussi quelque chose comme la boîte de vache qui rit. L'exemple le plus connu en France probablement pour la mise en abîme, et évidemment la mise en abîme en général, que l'affiche qu'on voit est dans les images aussi, je veux dire l'affiche est dans l'affiche, ce qu'on voit là en haut. Et il y a aussi un film still de Ingmar Bergman où un acteur joue un acteur. C'est aussi très classique dans le film ou aussi dans le théâtre, une sorte de mise en abîme. Et pour parler un peu plus du film même, si tu n'as pas des autres questions, je m'arrête.
Simplement, ça peut venir à un moment ou à un autre. Là, par exemple, tu dis à l'instant que tu utilises des objets qui t'inspirent, dont tu te sers, sont des objets presque du quotidien. Dans cette question du dédoublement, alors peut-être c'est lié au fait que j'arrive aussi d'Allemagne, mais est-ce que cette double nationalité, le fait qu'il y ait beaucoup aussi de drapeaux, soit un drapeau flottant, léger, soit un drapeau qui fasse un peu mur, ou de tissu qui ait cette double fonction, qui soit à la fois volant ou limitant un espace, limitant un cadre. Est-ce que cette double identité qui fait que toi, Allemande, arrivant en France, il y a aussi, tu te trouves dans la langue à devoir jouer un rôle, est-ce que tu penses à ça, est-ce que ça prend une place consciente, en tout cas dans ton travail, que cette identité?
C'est très intéressant comme idée, mais c'est pas consciente. Je veux dire, pour moi, le tissu ou aussi le rideau de théâtre, par exemple, je le vois plutôt aussi comme un miroir. Aussi, si on regarde la scène, il y a sur une côté les spectateurs et sur l'autre côté les acteurs. Et si on pense à une sorte de catharsis, ça veut dire que les acteurs, ils jouent tellement que nous, comme spectateurs, on sent aussi quelque chose, que c'est aussi un miroir, et le rideau peut être aussi vu comme une simèse invisible de miroir, de réflexion. Et avec les identités, je veux dire, jouer un rôle dans la vie, ça c'était aussi déjà pour moi un grand thème avant que je suis arrivée en France. Et c'est pour ça aussi, j'étais très jeune, je suis intéressée par le théâtre, parce que là, c'est explicite qu'on joue un rôle, que moi, je trouve que c'est la version la plus honnête dans la vie, le théâtre, parce qu'on l'a fait aussi dans la vie sans le avouer souvent, et aussi sans le remarquer, parce qu'on est souvent dans des jeux et des rôles de société tellement inscrits, où on est tellement, je veux dire... c'est quoi, Erziehung en français?
Éducation.
Oui, on est tellement éduqué que souvent on remarque pas, évidemment, je veux dire, il y a quelque chose sûrement très intéressant là dans ce que tu dis, parce que dans une autre langue et un autre pays, on peut sûrement mieux jouer que dans le propre pays. Et aussi changer des rôles et des identités, parce que la langue, c'est l'identité.
Et en tout cas, il y a cette variation qui est une variation légère, mais qui demande un déplacement profond. Et c'est un peu ça qu'on voit dans les dédoublements, c'est une petite variation. On parlait des deux images, une fois de la droite ou de la gauche, quand on regarde la perspective dans le miroir, il y a un tout petit détail, et en fait, c'est un changement radical de position. Et c'est...
Et c'est donc à la fois très grand et très rapproché, cette différence entre les deux personnalités qu'on invente, etc. Et je voudrais poser peut-être une question qui me vient souvent et que j'ai posée à Katinka Bouk la dernière fois. Mais est-ce que du coup, aussi on parle de la mascarade féminine, etc. Est-ce que tu penses est-ce qu'il y a quelque chose de féminin dans ton travail ?
Oui. Oui, malgré, évidemment, j'aime bien aussi de... contrairement, j'aime pas trop de différencier entre l'art féminine et l'art masculin. Parce qu'aussi, je trouve ça un peu simple. Et aussi, c'est encore une... là, ça serait peut-être beaucoup plus intéressant. C'est quoi l'art masculin ? Parce qu'on parle beaucoup de l'art féminine, parce que l'art masculin, c'est l'art qui est normal et ce qu'on voit partout, toujours. C'est l'art féminine qui est exclu, souvent. Et ça aussi, comme des expos dans le Centre Pompidou avec elle, ça aide pas du tout. Là aussi, encore une fois, les femmes sont segregated.
Oui, mais la question c'est effectivement ne pas voir en quel point les femmes seraient semblables aux hommes mais si on peut repenser et d'arriver à une sorte de métissage des genres féminin masculin, mais si on doit repenser sur de nouvelles bases et pas sur des vieux critères cette féminité et pas précisément comme le fait d'un mouvement féministe qui demanderait à mettre des jupes sur les signaux ou les panneaux, etc., qui en fait feraient référence à des très vieux clichés, mais plutôt le fait de réinventer de réinventer ce que c'est que la différence profonde de la femme vis-à-vis de l'homme. Enfin, plutôt de ce côté-là, pas de classer art féminin, art masculin. Je pense que dans ce sens-là, peut-être un homme peut faire un art féminin, parce qu'il posera ces questions essentielles-là, la différence essentielle de la femme.
Mais déjà, moi je suis pas sûre s'il y a vraiment un art. Est-ce que c'est aussi nos rôles qu'on a appris dans cette société d'être une femme et un homme ? Là, il y a des grandes discussions de gender. Quand on est on est bébé, on est traité comme fille ou comme garçon.
Oui, alors...
Et là, ça gère aussi des artistes qui font. Et forcément, on voit plutôt des garçons. Artistes qui vont bâtir des maisons avec du bois et qui veulent faire qui veulent bâtir, et les femmes qui font la poterie depuis 5000 ans et qui décorent l'intérieur de cette cabane que l'homme il a bâti. Ça un peu aussi voir cette truc dans l'art, évidemment, mais est-ce que c'est pas quelque chose qu'on a appris aussi après?
Ouais, je pense que justement après avoir traversé une période de déconstruction des genres, en montrant que ça pouvait venir simplement d'une culture, d'une éducation, de critères finalement arbitraires, je pense qu'on arrive dans le mouvement d'après, et qui fait qu'on se réinterroge sur qu'est-ce que c'est que la femme autre que le fait de faire de la poterie, et est-ce qu'il y a comme ça une essence qui serait pas seulement liée à des déterminations arbitraires qu'on aurait comme ça donné de l'extérieur, comme dans l'éducation, etc. Enfin, c'était...
Ouais. Non, mais il y a une connotation féminine sûrement dans mon travail. Je voulais juste dire que je veux quand même faire très attention avec des termes comme ça. Après, évidemment, j'ai fait des travaux comme quilt, où j'ai cousu plusieurs vestes et plusieurs cravates ensemble pour c'est une sorte de rosette qui est allongée sur le sol. Évidemment, c'est une critique de ma part de un cercle, peut-être même secret, on le sait pas, mais un cercle où les femmes y rentrent pas, elles ont pas accès. Et aussi une sorte de formation, aussi une sorte de, si on veut, militarisme, ou si ce qu'on voit dans la politique, où c'est juste la cravate qui fait la différence entre les hommes. Ça, c'est sûrement un travail féminin, parce que c'est une critique de notre monde masculin.
Oui, puis c'est jouer sur un peu la clownerie de cette...
Oui, aussi.
Avec cette distance.
Exact. Aussi les cannes ou les chapeaux, tout ça qui m'intéresse, ou les cravates, forcément, le plus. Ce sont les mascarades.
Je pense aussi au rideau ouvert. Le rideau ouvert, c'est vraiment l'attente,
les voiles aussi, le fait d'être le caractère de la pudeur, enfin des choses qui peuvent comme ça voilà, faire un petit peu penser voilà, cette notion. Autrement, tu as donc invité quelqu'un à écrire pour toi là, pour ce projet. Et tu es représentée par la galerie Art Concept. Donc, tu parles souvent de, bah, déjà beaucoup de jeux de miroir et tu parles de la réflexion et de l'acte de conscience comme un miroir, en fait, un retour sur soi. Comment tu te situes par rapport aux textes qui sont écrits sur toi ou en général vis-à-vis des discours sur l'art? Comment tu les appréhendes? Comment tu t'en nourris? Est-ce que ça a une grande importance ou pas? Est-ce que tu as eu des moments où ça a pu débloquer des choses? Est-ce que ça prend une place vraiment plus que ça?
Malheureusement, c'est quand même rare qu'un texte qui est écrit sur moi qui déclenche vraiment quelque chose. Je veux dire, souvent... Mais je veux bien... Je veux bien lire cet texte sur moi.
Tu rêves d'un texte?
Oui, je rêve d'un texte qui va déclencher quelque chose et qui va vraiment découvrir quelque chose. Mais je veux dire, il y a forcément souvent des bonnes pensées, mais souvent c'est aussi une répétition. Et même, il y a aussi des articles qui étaient écrits sur moi, notamment là, sur cette dernière expo que j'avais chez Art Concept, qui m'a énervée parce qu'ils ont écrit... sur ce truc que je suis une Allemande et le Wagner et le Gesamtkunstwerk et ça se sent et là je veux dire moi comme Allemande avec cette histoire c'est un peu lourd de porter ça et Wagner c'est vraiment pas la meilleure comment dire référence que je me souhaite. Je veux dire, il y a aussi des choses comme ça et là aussi encore une fois il y a aussi beaucoup, je veux pas critiquer les critiques mais pour moi, il y a beaucoup de critiques qui ne regardent pas vraiment, qui regardent le nom, l'âge, le sexe, un peu le travail, et après ils font un mélange pour déclencher des mots que tout le monde comprend vite. Et c'est pas, moi je trouve que c'est quand même rare qu'il y a des gens qui regardent vraiment dans le détail, et aussi pour comme toi, d'avoir plutôt une pensée plus philosophique aussi que ça. Pour aussi.
Mais par exemple, pour des textes, est-ce que tu lis des textes plus conceptuels sur l'art en général?
Je lis. Pas sur l'art. Moi, je veux dire ça, évidemment, mais pas chaque jour. C'est plutôt que j'ai lu des textes. Je lis beaucoup des livres et aussi des textes philosophiques, mais pas sur l'art même. Parce que moi aussi, ma référence, c'est pas l'art. Et c'est très important pour moi.
Je crois que c'est pour ça que deux philosophes, je m'adresse à des artistes, je pense que cette recherche à l'extérieur est effectivement en fait, peut-être plus intéressante. Mais quand même sur la valeur du concept, parce que art concept ça fait un petit peu peur en fait, parce qu'on pense art conceptuel, forcément on a ça un peu en tête. Est-ce que tu pourrais dire que tu considères le concept un peu comme quelque chose qui est de l'ordre de cette... j'aimerais revenir sur ce thème, de cette non-réalité, c'est-à-dire quelque chose qui soit de l'ordre de l'imaginaire, une sorte de miroir. Si le concept, en général, peut être vu comme un produit de l'imaginaire, alors que le concept cherche toujours à être au plus près du réel, cherche toujours à être le plus précis, à être le plus concis, le plus rigoureux dans sa... Voilà, dans sa recherche d'adéquation avec le réel, est-ce que finalement il n'aurait pas à gagner, en fait, en s'assumant lui-même, en assumant sa part d'imaginaire et de fiction? Et le fait d'être à Art Concept et de travailler tant avec l'imaginaire, ça pouvait permettre, pour ce mot un peu délaissé ou un peu maltraité de concept, de l'amener un peu ailleurs.
Voilà, c'est un peu... Non, c'est vrai. Je veux dire, d'ailleurs, je voulais juste dire, chez Art Concept, il y a, comme tu sais bien, ou tu connais bien leur programme, j'imagine, c'est pas une galerie que des artistes conceptuels. Mais c'est vrai que, je veux dire, le rêve ou d'essayer de être dans une monde imaginaire et d'essayer d'amener les gens qui regardent mon travail dans un monde de rêve, ça, c'est ça, on peut appeler un concept. Après, il y a quand même toujours un concept derrière aussi, ou même une construction. C'est pas que l'imaginaire qui parle. Je veux dire, il y a aussi avec la réduction qui est toujours important pour moi, ou par exemple maintenant c'est doublement de situation de l'expo. Ça c'est un concept très fort qui vient pas juste de la fantaisie. Je veux dire, ça c'est quelque chose assez rationnel. Tu comprends?
Moi, j'aime combiner les deux, le rationnel et la fantaisie, en se pensant qu'ils marchent toujours ensemble.
Oui. Oui, et aussi, je veux dire, dans le film, par exemple, je vais, comme dans mon film Singspiel, les acteurs vont chanter une musique, et pas avec leur propre voix. Et j'ai écrit un texte pour eux qui est aussi écrit, et ça c'est comme, avec moi ça marche toujours le mieux, c'est écrit comme un peu l'écriture automatique. Je sais pas exactement comment les surréalistes ils ont fait, évidemment j'étais pas là encore quand ils ont fait ça, mais de se mettre dans un certain état d'esprit où forcément le rationnel il a moins de place, et d'écrire sans s'arrêter. Et aussi ça marche toujours, seulement sans pause. Je veux dire, le texte est toujours écrit dans un soufflement.
Et qu'est-ce que ça veut dire chanter, mais pas avec sa propre voix?
Ça veut dire qu'il chante avec ma voix.
D'accord. Oui, ça, tu l'avais déjà fait.
Oui. Mais aussi dans ce film-là, encore une fois, quoi intéressant peut-être avec ce point qu'on a discuté avant, avec le gender, ça va commencer avec deux acteurs, deux hommes, qui vont s'approcher du miroir et qui vont se maquiller et déshabiller en femme. Et après, ils vont prendre leur place un peu plus derrière dans la scène, dans le fond de la scène. Et jouer un jeu, et là il y a une vraie entre guillemets femme qui va rentrer, et ils vont faire une sorte de petite jeu chanté ensemble. Et aussi la femme, elle va, non, c'est un des hommes qui va dire aussi, je voulais juste ajouter pour la mise en abîme, parce que le film va être tourné en noir et blanc. Ils vont discuter d'une couleur qu'ils ne peuvent pas voir, une couleur exactement, c'est quelle couleur exactement, des gants de la dame. Et il va chanter, je ne peux pas bien voir parce que c'est un film en noir et blanc. Et ça, c'est aussi une sorte de mise en abîme, parce que, je veux dire, c'est quoi un acteur, ou quel rôle il joue là vraiment, et de sur quel côté il se trouve.
La mise en abîme, si je ne me trompe pas, le mot allemand c'est Abgrund, c'est ça?
En fait, il n'y a pas
plusieurs
un
mot.
Il n'y a pas un mot en
pour
allemand.
Pour cette expression, il n'y a pas de mot, mais l'abîme, c'est ça.
Mais abîme, oui,
abîme
c'est.
Abîme seul, oui.
Mais ça n'existe pas comme ça.
Parce que sinon, l'abîme seul, ce serait l'absence de fondement aussi, c'est-à-dire l'absence de sol. Et donc, quand tu parlais tout à l'heure de ces collages par lequel on arrive à un tel foisonnement qui fait que ce groupement finalement d'éléments ne soit pas seulement une association de choses qui s'ajouteraient les unes aux autres, mais qu'il y ait de ça, comme l'émergence d'une nouveauté, d'une unité, mais qu'il soit autre chose que la somme de ces différences. Et donc c'est comme s'il y avait cette mise en abîme au sens de faire le pari de retirer le sol sous nos pieds, d'une certaine manière. C'est-à-dire de voir comment émerge un nouveau sol du sens. Et donc la naissance de la signification.
Ah oui, ça c'est intéressant. Mais c'est seulement comme ça qu'on apprend des nouvelles choses aussi. Si on perd les anciennes.
Mmh. Oui, c'est ça, c'est retrouver la genèse de la signification en général. Mmh. Comment on l'a. Quelque chose qu'on. Essayer de la générer soi-même. Est-ce que cette aventure, disons, cette proposition à Rose Escape t'a permis, par l'espace, par quelque chose, par des rencontres, t'a permis de penser à quelque chose qui pourrait t'avoir fait un peu avancer? Il y a toujours des petits, des très petits détails qui permettraient de voir un petit aussi déplacement dans ton propre travail.
Si je crois cette de je veux dire de qu'il y a un miroir, je veux dire un miroir dans cet espace. Il n'y a pas des miroirs normalement des espaces d'expo parce qu'évidemment c'est un appart et c'est un milieu, on le voit, où une famille bourgeoise, je veux dire quand cet bâtiment a été bâti, a habité. Et ça, je trouve intéressant comme environnement, et aussi pour ça je voulais faire aussi cette mise en abîme, si on veut, de filmer un film dans l'espace où le film va être montré, je veux dire en double aussi l'espace, dans un sens, et ça je trouve très intéressant. De en fait, je trouve ça beaucoup plus intéressant que les white cubes où on expose souvent normalement, ou des espaces d'expo sans histoire. Et j'ai jamais filmé. Je veux dire, j'ai filmé dans une boule de miroir une fois un fantôme qui déclenche une caméra, et on voit la caméra cette fois-là dans le miroir, cette boule de miroir, et il s'en va. Mais de filmer toute une scène dans une miroir, aussi de dire ok, je veux doubler ça parce qu'il y a deux espaces, ça c'est nouveau. Et aussi, je vais faire juste après une exposition à Londres, dans la galerie Pilar Corias, et je vais montrer le même film qu'ici. Et aussi reprendre cette notion de miroir, et je vais faire des dessins. Je vais faire plein de dessins, et je vais les doubler aussi. C'est-à-dire que tu rentres dans un espace et tu vois sur la gauche les mêmes dessins que sur la droite. Et ça me permet d'échapper cet truc de juste montrer des dessins, mais de faire un concept assez fort de miroir aussi.
Parce qu'il y a les dessins pointent, il y a quelque chose avec les dessins. Ils trouvent leur place, et en même temps ils sont dans la petite salle. On espère. Moi j'en ai vu très peu des dessins, donc il y a comme ça cette attente de cette présence qui est là, et on attend de voir en fait quand est-ce qu'elles prendront la majorité de l'espace, peut-être une fois ou quelque chose comme ça.
Oui, ça va être le cas là. Normalement j'ai toujours caché les dessins dans les espaces de vente. non, je veux dire derrière la galerie, et je voulais toujours, parce que en fait pour moi le dessin c'est un peu le début de mon travail, et pour moi il y a vraiment une hiérarchie en termes de qu'il y a d'abord comme je le fais avec l'affiche, le matériel je collectionne, une sorte de source d'inspiration, un archive aussi qui est créé toujours, mais qui est aussi toujours nouveau. Et après il y a les dessins, après il y a les dessins sur mur, les grands murales, après il y a l'installation, ça veut dire le dessin devient l'espace 3D, et après il y a le film qui est pour moi la discipline la plus, pas difficile, mais la plus intéressante, parce que c'est le seul médium où tu peux combiner l'espace, le temps, une histoire, la musique, etc. Je veux dire, c'est...
Et alors, ma dernière question concerne le titre. D'où vient ce titre, Le Chevalier Inexistant ?
En fait, ce titre existe grâce à Simone Menegoi, qui a écrit tous les deux textes pour cette expo. Et il parle d'un chevalier qui est sur un... comment ça s'appelle ça ?
Un écusson ?
Oui.
Le
écusson.
Un bouclier ou...
Un bouclier. Ah. Ouais, en fait, la définition de la mise en abîme vient d'un bouclier, parce que sur beaucoup des boucliers, il y avait le bouclier même dans un des quatre carrés ou cinq. Et ça, c'est le premier fois que, la première fois qu'on a, je veux dire, qu'on sait que la mise en abîme existe. Et lui, il a vu un bouclier où il y a un chevalier qui se cache derrière un rideau, etc. etc. aussi en mise en abîme. Et ça, il a appelé le chevalier un inexistant, parce qu'on ne le voit pas parce qu'il est caché et les rideaux deviennent de plus en plus petits. Et évidemment, comme tu as dit, mais le chevalier existe, parce que tout ce qui est inexistant existe en même temps.
Merci.
Merci.
Réponse : le sens figuré. À quelques jours de l'exposition de Ulla von Brandenburg, je me trouve comme devant un rideau de théâtre entrouvert. Je suis dans la lumière et attends de passer au travers de l'entaille, de pénétrer dans l'obscurité de l'inconnu, de l'étranger. Je patiente en me remémorant les mots prononcés par l'artiste durant notre entretien et me donne une idée de l'organisation de l'espace, ainsi que de la forme de quelques œuvres que je vais découvrir. Mais ces mots sont comme la préface de certains livres. Je les lis au début, mais les apprécie seulement à la fin, lorsque je récapitule l'ensemble de l'expérience qui m'a été offerte. Le rideau appartient au vocabulaire du spectacle que l'artiste utilise constamment, alors que Ulla von Brandenburg prend parfois explicitement comme modèle la tragédie grecque, les formes qu'elle emploie rappellent également, comme le fait remarquer le critique Simone Menogoy, celle de la Commedia dell'arte. Ulla von Brandenburg mêle des tonalités solennelles avec d'autres légères, créant une harmonie tout à fait particulière. Si l'on peut parler de théâtralisation dans son travail, non seulement concernant ses vidéos, mais également pour ses dessins et installations, c'est parce qu'on y retrouve cette harmonie surprenante à l'intérieur de ces divers registres. Rosascape est un espace original et on se demande à chaque fois comment l'artiste s'en est-il emparé. Alors Ulla von Brandenburg a déjà utilisé des rideaux dans des installations précédentes, l'architecture du lieu offre la possibilité de le mettre doublement en valeur. En effet, dans l'installation présentée à Rosascape, la figure du rideau est répétée par la grande porte à double battant qui délimite la pièce principale, et par la présence du miroir et le rôle particulier que l'artiste fait jouer à celui-ci. Dans ce miroir, la limite qui sépare le regardant et le regardé est particulièrement ambiguë. Le spectateur prend physiquement part à la pièce, pris malgré lui dans un dispositif théâtral, et se trouve obligé de s'adapter et de s'inventer un personnage, aussi mal préparé soit-il à ce rôle. En réalité, le jeu spécifique que Ulla von Brandenburg fait adopter aux acteurs de la vidéo comme l'assurance ordinaire du personnage. Quel rôle joue-t-on? Qui joue exactement? Sont les questions qu'on ne cesse de se poser, acteurs comme spectateurs. Ajouter au présent de l'expérience proposée, une autre dimension est tout aussi importante, celle de l'après-coup, c'est-à-dire du moment où, une fois sorti dans la rue, dans son lit, la boucle se referme. Le rideau, qui semblait entrouvert, n'était en réalité pas plus ouvert que fermé. Quelque chose persiste. Le spectateur est marqué par l'empreinte de ce moment vécu, un vécu qu'il retrouve lorsque des images lui reviennent en mémoire, non seulement des images, mais aussi des sons, en particulier des chants. Réitérons-nous à Rosascape l'expérience d'hypnose créée lors de l'exposition de l'artiste au plateau par la mélodie de la vidéo Singspiel en 2009. Il y a donc deux temps dans l'appréhension de cette œuvre, un temps du présent et un temps du retour, car les sensations éprouvées ne prennent vraiment sens que lorsqu'on se les remémore. Comme tout acte de réflexion, il s'agit de laisser le sensible être ressaisi par la pensée. Beaucoup d'événements ne peuvent être vécus qu'au futur ou au passé, non pas parce que le présent serait trop insaisissable, mais parce que notre vécu est sans cesse altéré à l'image du réel. Le réel n'est pas homogène, c'est un entrelacs et un chassé-croisé de matériaux divers. N'est-ce pas finalement ce à quoi renvoie le patchwork de tissus ou bien d'images qu'affectionne Ulla von Brandenburg? Ce à quoi renvoie aussi l'indétermination de l'acteur à affirmer un rôle identifiable par des codes traditionnels, un rôle avec un nom, une fonction, une manière à soi de se déplacer dans l'espace, une voix singulière, tout ce que l'artiste tend justement à effacer. Dans l'invitation à vivre une expérience sur le mode du revivre du sentiment de déjà-vu, comme dans toute expérience de réflexion de soi dans un miroir, se trouve posée cette question: qu'est-ce que le réel? C'est-à-dire à quelle sensation, à quelle perception devons-nous faire confiance? Devant un miroir, est-ce que je vois deux corps, ou un corps et son image? Si certaines de mes perceptions sont contradictoires, est-ce que je dois en privilégier quelques-unes et négliger les autres? Il faut toujours une logique pour ordonner l'ordre et l'ensemble des sensations perçues, afin de ne pas régresser à un stade antérieur à celui du miroir, par lequel on apprend que les deux corps qui se font face sont un seul corps. Mais jusqu'où peut-on inventer sa propre logique sans tomber dans la solitude et la folie? Ulla von Brandenburg nous pose cette question: y a-t-il d'autres manières de constituer la réalité et de se constituer soi-même vis-à-vis d'elle? Lors de notre entretien, nous avons évoqué le jeu, la mascarade. Nous avons parlé de la manière dont nous incarnons sans cesse un rôle, à commencer par un rôle social, mais bien d'autres encore. À tel point que nous nous retrouvons sans cesse devant la difficulté à déterminer ce qui tient de l'artifice, ou au contraire d'un idéal naturel que nous avons très rapidement conçu comme irreprésentable. Durant cette discussion, nous avons identifié une difficulté fondamentale, celle qui consiste à différencier ce que nous appelons le réel et le sens du réel, à distinguer nos perceptions et la manière dont nous les combinons entre elles. Et nous nous sommes demandé quelle est, dans l'œuvre de Ulla von Brandenburg, la place de l'artifice tout autant que de l'abstraction ou de l'imagination. Plaçons donc cette œuvre face au sens. Le sens est différent de la logique car il recèle une ambiguïté. La logique est souvent perçue comme un modèle qui se plaque à nos perceptions et les fait entrer dans son moule de manière forcée et arbitraire. Le sens semble inhérent aux choses mêmes, aux phénomènes, mais il peut également, suivant un processus similaire, avoir un caractère totalitaire. Regardons dans le langage courant ce que l'on oppose au sens. Demandons-nous, qu'est-ce que l'insensé? L'insensé est ce qui ne rejoint pas une expérience possible, ce qui ne rejoint pas la cohérence à laquelle nous sommes habitués. L'homme insensé, c'est le personnage en décalage, qui refuse l'évidence et pose des défis à l'ordre des choses, comme pour vérifier si ces choses sont bien telles qu'elles sont établies par sa culture, ses habitudes de pensée. L'expérience nous montre que c'est toujours de l'incohérence que naît la cohérence, et de l'insensé le sens. Du fait de brouiller les pistes, de revenir en arrière pour redistribuer les cartes, de suivre le chemin des failles au lieu d'un ordonnancement qui se met en place de manière presque automatique dans notre développement personnel. Sur la base de cette expérience, il semble être intéressant de forger un concept à partir d'une autre expression courante, celle de sens figuré, qui désigne un espace limite entre le sens et l'insensé. Le pouvoir d'évocation du sens figuré est à la base de notre imagination comme de nos concepts. Pourtant, ne pourrait-on pas lui reprocher de manquer de précision et de rigueur et de nous faire décoller du champ de la perception auquel, au contraire, par son souci d'adéquation, le sens propre adhère? Je laisse la parole à un auteur qui, scientifique et philosophe, utilise la métaphore du décollage pour désigner ce qu'il appelle la méthode de découverte, une méthode dont on trouve l'écho au cœur de la pratique artistique. Je cite donc Whitehead dans Procès et réalité. La vraie méthode de découverte est comme le vol d'un avion. Elle démarre sur le terrain de l'observation particulière, elle s'envole dans l'air léger de la généralisation imaginative et elle atterrit de nouveau en aiguisant ses observations par l'interprétation rationnelle. La seule remarque à ajouter à cette proposition de Whitehead serait de dire que le vol peut adopter d'autres modes d'imagination que la généralisation de ce qui a été observé dans l'expérience, par exemple son détournement, son déplacement. Avec le travail de Olaf von Brandenburg et la récurrence dans celui-ci de la figure de dédoublement, nous nous situons exactement à la croisée des deux, entre généralisation et transformation. Ce qu'il y a de remarquable dans l'expression « sens » figuré, et qui rejoint profondément l'œuvre de notre artiste, c'est l'ambivalence du mot « figure », car la figure évoque l'abstraction de la forme idéale, comme l'est la figure géométrique, tout en se confondant par moments avec le mot « visage ». Or le visage, c'est au contraire de l'idéalité abstraite, l'autre par excellence. Le visage désigne l'individu unique et la relation unique qui se tisse entre moi et lui dès le premier instant où nos deux visages se croisent. La référence à la figure, au sens figuré, correspond donc bien à l'ambivalence du registre qu'utilise Olaf von Brandenburg qui se situe entre l'étrangeté et la neutralité, entre le réalisme et la fiction. Dans son œuvre, les figures sont engagés dans un processus de dédoublement qui introduit de l'étrangeté là où on s'attend à retrouver de l'identique, du même. La répétition est une répétition faussée. En s'interrogeant sur ce qu'est la répétition, que ce soit celle d'une image par le jeu du miroir ou encore une scène qui se rejoue infiniment en boucle, sans oublier la répétition d'un acteur avant que la scène ne soit jouée pour la première fois en public, on découvre qu'elle est toujours déformation, transformation. La répétition, contrairement à la conception commune, est toujours associée à la nouveauté. Et puis, comment appréhender l'étrange autrement que sur fond d'une image de familiarité? La fiction n'est-elle pas plus efficace, plus frappante, lorsqu'elle s'insère dans une impression de réalisme? C'est ce jeu d'équilibre qu'évoque le nom paradoxal de figure qui constitue l'un des fils directeurs de l'œuvre de notre artiste. Dédoublement, miroir, boucle, ronde ou encore impression de déjà-vu. La première tonalité particulière dans ce travail est la répétition du même. Puis entre en jeu le comique, le drame, le jeu de rôle ou le masque correspondant à une autre catégorie du dédoublement, celle d'une projection au-dehors de soi. Dans la constitution simultanée du réel et de soi, à laquelle renvoie la référence lacanienne au miroir, et provoquée ici par l'effet de la répétition des figures, le vol d'avion proposé par Olaf von Brandenburg nous offre l'occasion d'être au plus proche des choses, mais dans une proximité qui ne trompe pas. Cette proximité qui ouvre sur un abîme, thème central de cette exposition, cherche le point d'équilibre où le soi, le réel et le sens sont près de s'effondrer. La figure, par sa plasticité et sa souplesse, y fait office de passerelle légère, seul lien capable de rapprocher les deux bords d'une faille qui menace, à tout moment, de nous plonger dans l'obscurité de la folie. Théodora Domenech.